Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 18h à Sofara, Massina, même heure sur l'ensemble de nos radios partenaires. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Voici le sommaire. Vers un apaisement du climat social, un accord de pacte social a été signé ce vendredi entre le gouvernement et les centrales syndicales. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger renforcent leur coopération dans la lutte contre le terrorisme. Une mesure prise hier jeudi au cours d'une rencontre tripartite à Niamey. Où en sommes-nous avec le processus de retrait de la carte biométrique sécurisée? Les populations s'interrogent et en parlent dans la rubrique « On en parle ». Le point complet de ces titres dans un instant avec Juliette Koulibaly Gaïn-Kanté est à la mise en onde. Le Mali fait un pas dans sa gouvernance sociale. Le gouvernement et les différentes centrales syndicales ont signé ce vendredi le pacte de stabilité sociale et de croissance, un document élaboré par un comité d'experts avec l'implication des partenaires sociaux. L'objectif de cet accord, selon les autorités, est de faciliter l'instauration et la consolidation d'un climat social apaisé propice à l'émergence économique. La cérémonie était présidée par le président de la Tanzanie, Assimi Goïta. Mariam Koulibaly était sur place pour Studio Tamani.
Le pacte est structuré autour de deux axes que sont le dialogue social et la liberté syndicale. Il comporte 7 chapitres et sera mis en œuvre à partir des recommandations de la conférence sociale tenue du 17 au 22 octobre 2022. Les 3 premiers chapitres traitent du fondement juridique du pacte, de ses objectifs et des attentes des parties signataires, notamment le gouvernement, l'employeur et le travailleur. Les 4 autres abordent les engagements communs et spécifiques de chaque partie. Le pacte comprend en tout 60 domaines d'engagement et 125 activités programmées sur 5 ans. Une vingtaine de syndicats et de centrales syndicales ont signé le document. Parmi eux, la Confédération syndicale des travailleurs du Mali CSTM, l'Union des travailleurs du Mali UNTM, le syndicat de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et ceux de la magistrature, les acteurs sociaux ont promis de privilégier le règlement pacifique des conflits sur les lieux de travail et d'intégrer les questions relatives à la performance de leur entreprise. Le président de la transition a quant à lui appelé les parties au respect des engagements pris.
En marge de la signature du pacte social, le personnel de l'hôpital Gabriel Touré a tenu un sitting ce vendredi à Bamako. 3 points étaient à l'ordre du jour. L'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel, le respect de la liberté syndicale et la restitution des salaires prélevés. Jimmy Kanté, son porte-parole, est au micro de Sita Sidibé.
Un sitting pour dire non à l'injustice, pour exiger une gouvernance hospitalière vertueuse. Le travailleur de l'hôpital Gabriel Touré est très frustré. Il y a quelques jours, nous avons vu nos salaires coupés et plus de la moitié du salaire a été coupé chez certains agents pour motif de grève. Et c'est normal qu'en cas de grève, que de telles actions soient prises. Nous irons jusqu'au bout. Nous n'entamerons aucune négociation avec aucune partie sans que ces salaires coupés soient d'abord reversés.
Nous, nous nous reconnaissons dans tout ce qui peut amener une certaine réparation. Et si un pacte social aujourd'hui était élaboré et qu'il engage notre centrale, nous ne pouvons nous plier qu'à ces décisions. Le vrai problème, c'est le déficit de dialogue social. Donc je doute fort qu'un pacte social puisse venir mettre fin à ces situations-là.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Les résultats du brevet de technicien 1 et 2 ainsi que le CAP ont été rendus publics ce vendredi. Le taux d'admission est de 24,39% pour le BT1, 75,6% pour le BTD. Pour le certificat d'aptitude professionnelle, le taux est de 44,63%. Autre actualité de cette édition, plus d'une dizaine de personnes ont été tuées par des individus armés non identifiés dans la commune de Soufara, cercle de Djéné. Au même moment, dans le cercle de Massina, des hommes armés ont pris le contrôle de Wela dans la commune de Kolongotoma. Des sources locales soulignent que cette situation a créé une psychose au sein des populations. Ces dernières réclament le soutien de l'État. Le point avec Assetou Kanté.
Des hommes armés se sont introduits le mardi dernier dans le village de Nyamoussa, commune de Sofara. Selon des sources locales, 8 personnes ont perdu la vie. Au lendemain de cette tuerie, les assaillants ont aussi attaqué le village de Kombaka dans la même commune, faisant 7 morts. Toujours au centre du pays, à Massina, des hommes armés non identifiés à moto ont tué mardi soir l'un des chefs chasseurs d'Onso de Monimpebougou. Le même jour, une dizaine de bandits armés ont assassiné un conseiller du chef de village de Togolokura à Kolongoville. Notons que dans le cercle de Massina, des habitants regrettent la présence accrue d'hommes armés et lancent un SOS à l'endroit de l'armée. Ils informent que pas plus tard qu'hier, plusieurs individus armés se sont positionnés dans les environs de Ouéla à Kolongotomo.
Le Mali, le Burkina Faso et le Niger décident de mettre en place un cadre de concertation tripartite. Objectif, mieux cerner les défis sécuritaires et préoccupations des populations dans les trois pays. C'était au cours d'une séance de travail tenue hier à Niamey. Le Mali était représenté par son ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Plus de détails avec Ali Cissé.
Le Mali et le Burkina Faso réaffirment une nouvelle fois leur soutien et leur solidarité au peuple nigérien. Durant cette visite de travail, les délégations des trois pays se sont engagées à coordonner leurs actions à travers des partenariats ouverts et respectueux de l'égalité. En outre, ils ont évoqué la nécessité de renforcer la collaboration sur le plan politique, économique, scientifique et culturel. Les représentants des deux pays ont aussi réaffirmé leur commune volonté d'impulser et de dynamiser la coopération entre les trois pays afin d'atteindre les objectifs de souveraineté, de paix et de sécurité. Ils s'engagent également à mutualiser leurs efforts dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Enfin, les trois pays conviennent de s'accorder des facilités d'assistance réciproque en matière de défense et de sécurité en cas d'agression ou d'attaque terroriste. Les ministres des Affaires étrangères du Mali et du Burkina Faso étaient respectivement accompagnés par le ministre de l'Économie et des Finances du Mali, Alou Seni Sanou, et le ministre délégué chargé de la coopération régionale du Burkina Faso, Karamogo Jean-Marie Traoré.
Parlons à présent d'élections. Les membres des institutions impliquées dans les élections viennent de boucler 3 jours de session. Les modules ont porté sur la communication et transparence des organes de gestion des élections. Son objectif est de renforcer la capacité des agents électoraux en prélude aux prochaines élections. C'est une initiative de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux AIFES en partenariat avec International IDEA. Khalifa Goïta.
Après 3 jours d'échange, les participants se disent suffisamment aptes à maîtriser les enjeux et défis liés aux élections.
Les modules présentés prouvent à suffisance que cette formation avait vraiment le mérite à peu combler le vide.
En matière électorale, l'ennemi numéro un, c'est la désinformation. Quand ces différentes parties prenantes pas bien informées, le processus est voué à l'échec.
Selon Mathias Umpe, directeur pays de la Fondation internationale pour les élections électorales, cela la bonne communication et la transparence garantissent la réussite d'une élection.
Ça réduit les incompréhensions, augmente la confiance des acteurs aux organes et aux institutions chargées d'intervenir dans le processus électoral. Ça réduit les risques de tensions et de conflits.
Plusieurs recommandations ont été faites aux autorités, notamment des formations sur la bonne utilisation des réseaux et médias sociaux, surtout lors des élections. Selon les participants, ces outils peuvent éviter des crises post-électorales.
Le retrait de la carte biométrique sécurisée, les populations dénoncent la lenteur dans le processus d'obtention. Dans les régions de Ségou, Tombouctou, Koutiala et Kaï, des citoyens affirment n'avoir toujours pas pu accéder à leur carte après enrôlement. D'autres aussi font cas d'erreurs constatées après retrait. C'est dans la rubrique On en parle, des réactions recueillies par Aïssata Diarra avec le concours de nos correspondants.
À Kaï ici, on a été enrôlé jusqu'à présent. On n'a pas reçu nos cartes et nous n'avons pas d'informations.
Au niveau de Koutiala, je me suis fait enrôler depuis le début. Je n'ai pas encore reçu. Aucun membre de ma famille n'a reçu sa carte biométrique.
À Koutiala, moi, je me suis fait enrôler il y a à peu près 4 à 5 mois. Mais je n'ai pas reçu ma carte.
Je n'ai pas reçu ma carte d'abord. J'aurais appris que la remise sera le 1er septembre à Tombouctou.
Mais pour moi, il y a une erreur là-dessus. Ils attendent le retour du ministère pour corriger leur erreur.
Ici à Ségou, je n'ai pas eu ma carte biométrique.
Je suis à Ségou, j'ai eu ma carte. Il n'y a aucune erreur.
À Ségou ici, le lieu du retrait est loin pour nous les paysans. Donc ce n'est pas facile.
Place maintenant à la rétrospective de l'actualité de la semaine avec Alima Yatara.
Nous commençons par les attaques des hommes armés qui se multiplient dans les régions de Mopti et Bandiagara. La situation provoque des déplacements massifs des populations. À Sofara et Bankas, des agriculteurs indiquent qu'ils n'arrivent pas à mener leurs travaux champêtres. Autre actualité de la semaine, c'est la rencontre des légitimités traditionnelles du pays à Bamako. Ces personnalités se sont réunies afin de proposer une solution définitive aux problèmes qui opposent l'État malien au mouvement signataire de l'accord pour la paix. Au cours de la semaine, il a été aussi question de la reprise du trafic routier reliant Douanza, Boni et Gao. Après plusieurs jours de blocage, des véhicules de transport ont pu partir de Douanza pour Gao en toute sécurité. Terminons par l'incertitude autour de la tenue de l'élection de la présidence de la FEMAFUT le 29 août prochain. Le seul candidat validé est sous mandat de dépôt depuis quelques jours. Au même moment, le ministre des Sports a demandé à la FIFA de s'intéresser au processus en cours.
Juste après le magazine, vous aurez le grand dialogue avec Sekou Gadjigo. Bonsoir Sekou, quel est le thème du grand dialogue de ce soir?
Bonsoir Juliette, le grand dialogue de ce soir parle de l'élection de la FEMAFUT, une équation à plusieurs inconnues avec nos invités Drissa Nyono, journaliste sportif, Yakuba Tangara également journaliste sportif et Suleiman Bobo Tunkara, journaliste sportif aussi.
Bon débat. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Elle vous a été présentée par Juliette Koulibaly. La mise en onde était assurée par Gagny Kanté. Place maintenant à notre magazine Économie de la semaine qui revient sur les avantages du nouveau code minier adopté récemment par le Conseil national de la transition. Il est réalisé et présenté par Moussa Malé Sissoko.
Ces projets de loi portant code minier et celui relatif au contenu local ont été adoptés le 8 août dernier par le Conseil national de transition. Après l'adoption, le président de la Commission des mines, de l'énergie et de l'eau au CNT a affirmé que la part de l'État passera de 10 à 30%. Hassan Sidibé explique que ce nouveau code minier apportera des innovations, notamment les recherches minières qui s'étendent à 9 ans et l'exploitation des mines à 12 ans renouvelables.
La convention d'établissement est scindée en deux. Une convention pour l'exploration durant laquelle vous avez droit à des exonérations. Une convention pour l'exploitation pendant laquelle vous n'avez pas droit à l'exploitation. Et une fois le gisement découvert, l'État peut utiliser l'exonération accordée pendant l'exploration pour prendre ses parts de la nouvelle société d'exploitation.
Hassan Sidibé ajoute que le projet de loi sur le contenu local vise à valoriser et augmenter la participation des entreprises maliennes dans l'exploitation des ressources minières.
Elle met les sociétés maliennes, les privés maliens au cœur de l'exploitation minière. Elle impulse aussi la création d'industries autour de ces activités minières-là.
L'économiste Modibo Mao Makalu affirme que ce nouveau code est plus attractif pour l'État malien, mais peut paraître contraignant, dit-il, pour les entreprises minières.
Dans la mise en œuvre pratique, ça peut poser des difficultés. Imaginez une entreprise qui a déjà signé une convention avec l'ancien code. Le nouveau code ne va pas s'appliquer. Mais maintenant, est-ce que les nouvelles entreprises qui vont venir vouloir exploiter de nouvelles richesses dans notre pays vont trouver ce code attractif? Je ne le pense pas parce qu'il est beaucoup plus contraignant que l'ancien.
L'économiste Ibrahim Mariko, en revanche, trouve ce document avantageux pour le Mali. Selon lui, le pays avait besoin de revoir sa politique de gouvernance du secteur minier pour relancer son économie.
S'il faut cette transition économique, il faut de nouvelles pratiques. Et le code demande la création d'un fonds de réhabilitation des infrastructures routières. Le code demande que l'or brut extrait soit raffiné dans notre pays. L'autre avantage aussi, c'est faire en sorte que les Maliens s'intéressent et s'investissent dans ce secteur, le transfert de technologie.
Modibo Mao Makalu préconise l'augmentation du capital de l'État par les sociétés minières et la multiplication des industries de raffinerie de l'or.
Quand on raffine, on ajoute de la valeur à ce qu'on vend. Mais aussi, vous créez des emplois dans ce pays. Et aussi, ça permet de connaître la production. Il faut que l'État monte dans le capital de ces entreprises qui viennent exploiter de l'or. Créer un fonds minier national. Les recettes de l'or peuvent aller là-bas. On va financer, faire le suivi des investissements dans ces localités.
La société civile des régions de Kaï, Bougouni et Sikasso plaide pour l'implication des populations locales dans l'exploitation des mines.
Par rapport aux populations, les collectivités locales, je pense qu'il y a une faiblesse de ce côté.
Nous espérons la réalisation
l'amélioration de nos centres de santé, la construction de nos routes et résoudre les problèmes d'électricité. Dans la commune de Danou, région de Bougouni, il y a le lithium. Nous demandons de l'emploi pour les jeunes.
Ce projet de loi portant sur code minier devra être promulgué par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Rappelons que le Mali est classé 4e producteur d'or en Afrique. Au moins 14 entreprises minières exploitent de l'or dans le pays. Selon les statistiques, le Mali a produit en 2022 72,2 tonnes d'or.